écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF, Marie-Léla Coussa.
Bonsoir à tous, il est 21h, je suis ravie d'être avec vous pour votre émission de Libre Antenne. Ce soir, on pose la question de toute une vie. Y aura-t-il un paradis pour moi ? Une question à la fois universelle et en même temps si intime. Vous pouvez nous rejoindre, vous le savez, au 01 56 56 44 00. Nous avons Cathy ce soir au standard pour vous accueillir. Et vous êtes également tous les bienvenus sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour pouvoir recevoir les dernières vidéos. J'ai la grande joie d'accueillir le frère Benoît Dubigeon ce soir. Bonsoir.
Bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices.
Merci beaucoup d'être avec nous pour nous accompagner et nous éclairer dans cette réflexion sur l'après-vie et nos espérances les plus intimes. Frère Benoît, vous êtes membre de la congrégation des Franciscains depuis plus de 40 ans maintenant. Vous êtes prêtre dans le diocèse d'Évry. Vous présidez la Fondation François d'Assise qui œuvre pour bâtir un monde de paix plus fraternel en construisant des ponts vers les exclus et les plus faibles sur des lieux de conflit, des lieux de guerre, de famine. Vous avez été aumônier de prison pendant 12 ans à Fleury-Mérogis précisément. Et vous êtes l'auteur d'un premier ouvrage paru en 2023, c'est « Ton visage que je cherche ». Aujourd'hui, vous publiez « Y aura-t-il un paradis pour moi ?» Même en prison, l'espérance est possible et ça vient de paraître aux éditions Arthège. C'est un récit inspiré de vos années, de vos rencontres en tant qu'aumônier de Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Racontez-nous, frère Benoît. Comment est né ce récit ?
Alors, il se trouve qu'il arrive en finale de ce ministère absolument extraordinaire d'être témoin de la miséricorde du Seigneur pour des personnes qui ont commis parfois des choses relativement graves, mais pas tant que ça. Et en disant ça, je pense quand même à toutes les victimes qui ont été touchées par ce qu'ils ont fait, mais aussi des personnes qui ont commis parfois l'irréparable, des meurtres, viol, accompagné un certain nombre de terroristes aussi. Et il se trouve que 2 années avant de terminer ce magnifique ministère là, que j'ai arrêté l'été dernier, il se trouve qu'il y a un visiteur de prison que j'avais rencontré quelques jours avant et qui me dit, voilà, je viens de rencontrer un jeune qui a tué de façon grave et il souhaite rencontrer un aumônier catholique alors qu'il n'est ni chrétien, il ne connaît rien sur Dieu, sur le Christ, sur l'Évangile. Est-ce que tu accepterais d'aller le rencontrer ? Ben, je lui dis, écoute, bien sûr, c'est évident, ça fait partie de mon travail. Et je vais le voir le lendemain. Et c'est assez extraordinaire parce que je tombe sur quelqu'un de jeune. Hein, il a actuellement 30 ans, donc il avait 28 ans à l'époque. Mais il en faisait beaucoup moins. Hein, 17 ans, 18 ans, je ne sais pas. Et il me dit, est-ce que vous savez ce que j'ai fait ? Je dis, pas trop. Vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pas pour savoir ce que vous avez fait, mais pour essayer de révéler la face lumineuse de votre être, quoi que vous ayez fait, et qui ne peut pas être détruit par ce que vous avez fait. Votre face lumineuse, votre face christique. Voilà, le meilleur de vous-même. Bon. Il me dit, c'est quoi la rédemption ? Est-ce que j'y aurai accès ? Est-ce qu'il y a un paradis pour moi ?
Ah, tout de suite, les grosses questions.
Ou plutôt un enfer. Dans les 5 premières minutes, j'ai jamais connu ça. D'habitude, on prend le temps de se connaître. Souvent, ce genre de questions, j'allais dire maus costaud, ça intervient au bout de plusieurs rencontres. Mais là, dans les 5 premières minutes, il me pose cette question-là. Ben, je lui dis, écoutez, on va cheminer ensemble, si vous voulez bien. Voilà, je vais me présenter quand même un petit peu pour que vous me connaissiez. Puis, vous allez aussi un peu vous présenter, vous dire... Voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre jeune vie adulte. Et puis on va cheminer, si vous le voulez, si vous me faites confiance. Et je suis là pour être une oreille attentive, un regard bienveillant et surtout un cœur sur ce qui vous est arrivé, qui ne me regarde pas, mais en tous les cas un cœur aimant. Voilà. Voilà l'entrée en matière.
L'entrée en matière. Et ça a été un long cheminement.
Voilà, alors depuis, on se voit... toutes les semaines.
C'est un long cheminement, c'est encore...
Toutes les semaines, et je peux vous dire, c'est des semaines, des rencontres qui ne durent pas une demi-heure ou un quart d'heure, mais qui durent plutôt 2 heures, mm-hmm. 3 heures, 3 heures et demie, voilà, dans sa cellule. Et c'est un chemin d'une très grande qualité. Je ne vous cache pas que le début a été très difficile parce qu'il était sous le coup de sa première incarcération, sous le coup de ce qu'il avait commis, dont je ne peux pas parler à l'antenne, bien sûr, parce que c'est quand même secret. Et en plus, il n'a pas encore été jugé. Donc, je dois respecter la confidentialité. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et il était complètement accablé dans un état psychologique et assez lamentable. Donc, il a fallu prendre du temps pour que déjà, il puisse sentir qu'il pouvait me faire confiance, qu'il pouvait tout me dire, en lui disant, vous savez, ce que vous me dites là, à l'oreille, par la bouche, ça descend dans mon cœur et ça n'en sortira pas. Vous pouvez être sûr avec moi, je sais garder un secret. Quoi que vous me disiez, je le garderai et je n'en parlerai à strictement personne. Et ça, c'est très important quand on est aumônier de prison, que la personne sache avoir totalement confiance dans ce qui est dit.
Établir une relation de confiance, justement, en prison, c'est aujourd'hui, donc, malgré tout ce qu'on pourrait penser possible, c'est ce que vous avez vécu en tant qu'aumônier.
Voilà, alors petit à petit, il s'est ouvert, il m'a raconté son histoire, une histoire cabossée, terrible, abandonnée par ses parents, par sa mère plutôt, violentée par son père, une enfance où il a passé son temps à se haïr lui-même, une adolescence... raté, et il a dû arrêter aussi ses études pour s'occuper de son père qui était atteint d'un cancer, une adolescence complètement ratée, bousillée, incapacité d'être en relation avec des copains, des copines, un cœur brisé, hyperactif et vraiment mal dans sa peau, je sentais que c'était quelqu'un qui avait besoin d'être regardé et qu'il trouve quelqu'un en qui il a confiance et quelqu'un qui est capable de l'aimer. Parce que j'ai très vite compris qu'il n'était aimé de personne, et en particulier de lui-même. Voyez. Quand vous êtes aimé de personne, y compris de vous-même, quel chemin pouvez-vous faire si ce n'est un chemin de violence et d'errance, voilà, quel qu'il soit. Pas forcément commettre un crime, mais là, il a commis un crime. Et donc, il a fallu que petit à petit, je comprenne d'où ils viennent, pour pouvoir réouvrir un avenir chez ce jeune homme, un avenir plus que compromis, puisque non jugé, risque de prendre plusieurs dizaines d'années, 20 ans, 25 ans de prison pour ce qu'il a fait, donc quelque chose de très impactant pour sa propre vie de jeune homme, et puis qu'il puisse réouvrir un avenir psychologique. Et petit à petit, je me suis dit... Il ne connaît pas le Christ, il ne connaît pas l'Évangile, il ne connaît pas Dieu, il n'a jamais eu accès.
Et pourtant, c'est les premières questions. Est-ce que je vais aller en enfer ou au paradis ?
C'est tout à fait étonnant, ça. Voilà. La question était d'abord une question divine, alors qu'il ne connaît pas Dieu. Et du coup, je lui dis, on va découvrir un peu l'Évangile. Je vous fais découvrir une parabole. J'aime bien parler des paraboles, parce que ce n'est pas des idées théoriques qu'on oublie. C'est quelque chose qu'on peut personnaliser. Voilà, on va lire cette parabole de la brebis perdue. Vous allez me dire qu'est-ce que vous entendez. Et puis après, on va la relire une deuxième fois. Et vous allez vous mettre à la place de cette brebis. Et c'est vous, la brebis, qui était perdue. Et puis, qu'est-ce que fait ce berger qui prend tous les risques, il va même abandonner 99 brebis pour aller essayer de vous retrouver. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Et donc, je laisse phosphorer là-dessus. Et petit à petit, il découvre que la brebis, elle fait rien. C'est pas elle qui prend les risques. C'est le berger qui prend tous les risques. Ah bon ? Le berger, il fait tout et vous faites rien ? Mais alors, c'est quoi être sauvé ? C'est quoi... Il commence à découvrir une relation personnelle avec quelqu'un qui va à sa rencontre. Et je vous fais un raccourci très bref, parce qu'on ne peut pas résumer 2 ans d'accompagnement en un quart d'heure. Mais un jour, je lui ai dit, vous savez, les chrétiens, parfois dans l'église, ils chantent ce cantique. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. Ah bon? Laisse-toi regarder. Mais je me dis, mais personne ne m'a jamais regardé en m'aimant. Il y en a un qui peut me regarder? Ben, je dis oui, mais moi je ne l'ai jamais vu. Vous l'avez vu, vous? Le bon Dieu? Ben, je dis moi non plus, je ne l'ai jamais vu. Mais je l'ai vu par des personnes. Et il me dit, ben, moi je le vois par votre regard. Laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. Je vois dans votre regard suffisamment d'humilité, de douceur, de compassion, de non-jugement, pour croire que c'est possible. Bon, ça, il a fallu 10 mois, 12 mois pour en arriver là. Ça ne s'est pas fait comme ça en 2 minutes. Mais c'est le chemin qu'il a fait pendant cette première année, de se laisser regarder par quelqu'un qu'il aimait. Et du coup, il s'est découvert quelqu'un d'aimable. Vous voyez, la conversion en prison, ça a été de passer de « je me hais moi-même à cause de ce que j'ai subi » et il s'est découvert aimable parce qu'aimé par le Christ via la personne que je suis, l'aumônier que je suis, que j'essaie.
Alors, l'aumônier que vous êtes, il reçoit tout ce témoignage, tout ce parcours difficile, toutes ces souffrances. Et alors, comment ça se passe pour lui ? Lui qui veut être ce cœur aimant, cette oreille attentive, c'est pas non plus facile.
Non. C'est difficile. D'ailleurs, dans mon livre, je parle de lui, mais je parle aussi beaucoup de moi. Je parle de la façon dont j'accompagne quelqu'un qui a tué, et avec tous les retentissements que ça a dans ma propre vie. Voilà, c'est pas rien d'être en face de quelqu'un qui a commis l'irréparable. Quelqu'un qui, souvent on entend de façon très très rapide, « Oui, de toute façon, ce qu'il a fait, c'est un monstre. » Je dis non. C'est pas un monstre. Il a commis des actes monstrueux, mais ce n'est pas un monstre. Ça reste une personne, et qui plus est, c'est un fils de Dieu. Et donc, moi-même, pour pouvoir arriver à dire cela, il faut faire tout un travail d'inventaire dans ma propre vie pour croire que, dans les faces non reluisantes de ma propre personne, je ne suis pas réductible à ces faces non reluisantes, mais que je suis relevé, aimé, par quelqu'un qui me regarde avec des yeux qui ne jugent pas, mais qui relèvent. Je dis souvent, la prison, la justice française est représentée par un plateau, une balance avec deux plateaux. On pèse le bien, le mal, d'accord ? Eh bien, la justice de Dieu, il n'y a pas deux plateaux, il n'y a qu'un seul plateau. Il n'y a que le bien, le bon, le vrai, dans chaque personne qui a du poids, qui pèse. Le reste, basta. Ça n'a aucun poids aux yeux de Dieu. Et donc, petit à petit, il faut, l'aumônier que je suis, attacher de valoriser le beau, le bon et le vrai de cette personne qui ne croyait pas en lui et qui, petit à petit, a du coup eu envie d'inventorier la plus belle part de lui-même. C'est pas rien, ça, comme travail.
Beaucoup de questions et de questionnements, on l'imagine, au fil de vos rencontres et de cette rencontre en particulier, frère Benoît. Y aura-t-il un paradis pour moi ? C'est le titre de ce récit donc, que vous publiez aux éditions Arthège. C'est la question que nous nous posons ce soir avec vous, chers auditeurs. Vous pouvez donc nous rejoindre en appelant au 01 56 56 44 00. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette question, frère Benoît ?
C'est la question, je pense, que tout homme, toute femme, un jour se pose. Quelle est, en face de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait, en face de ce que j'ai subi, ou du mal que j'ai fait, qu'est-ce qui va peser ? Qu'est-ce qui va rester lorsque tout passera, c'est-à-dire notamment avec le passage par notre sœur, la mort corporelle ? Et ça, je suis franciscain quand je dis ça, notre sœur, la mort corporelle, pouvoir appeler la mort une sœur, parce qu'elle est un passage, elle n'est pas un terminus, tout le monde descend, elle est un passage vers la vie pleine de Dieu. Mais encore faut-il croire en Dieu pour cela. Encore faut-il croire qu'il y a un Dieu qui est plus grand que ce que je peux commettre, ou que ce que j'ai subi, et que ce Dieu-là m'ouvre toujours un avenir possible, et qui ne me réduit jamais aux actes que je peux commettre, qui sont souvent pas très beaux, pas très reluisants à mes yeux ou aux yeux des autres. Donc, y a-t-il un avenir lorsque le chemin semble pour moi-même fermé? Pour cela, il faut que quelqu'un me fasse croire en moi. Alors, on dit, il n'y a que la foi qui sauve. J'aime beaucoup cette expression. Au début, je la trouvais un petit peu désuète, mais en fait, c'est vrai. Il n'y a que la confiance en moi, dans les autres, en Dieu, qui peut m'ouvrir un avenir que, à moi seul, je ne peux pas me donner. Il n'y a que la foi qui sauve. Oui, si j'ouvre mon cœur pour ne pas me réduire aux actes que j'ai commis ou que je n'ai pas commis, eh ben, ma foi m'élargit à un avenir plus grand. Le paradis, c'est déjà croire en moi, croire dans les autres et croire en Dieu. Alors si on ne croit pas en Dieu, mais au moins avoir davantage de confiance en soi, parce que personne ne m'a jamais donné confiance, ben, c'est pas, je ne parle pas de moi, mais je parle de Théo, là, dans le livre, qu'il commence à croire en lui-même. C'est déjà ça le début du paradis. Voyez, le paradis, c'est pas seulement après le passage par notre sœur, la mort corporelle, c'est déjà commencer d'exister. Théo, avant de partir en vacances, le 11 juillet dernier, ça ne s'invente pas, c'est le jour de la Saint-Benoît, c'est le jour de la fête, il m'a dit, sachant qu'il allait me revoir encore 5 fois, il m'a dit, frère Benoît, j'ai une reconnaissance éternelle pour vous, car avec vous, je suis né. Pour la première fois de sa vie, il est né en prison. Ce qu'il n'a pas pu faire avant de commettre cet acte irréparable, de naître à son identité, parce qu'il s'est détruit lui-même, il a détruit la vie d'autres personnes. Je pense aux familles, à la famille de celui qu'il a détruit. Eh bien, il est né en prison. Il y a possibilité de naître en prison. C'est déjà ça le paradis. C'est une porte ouverte vers la naissance à soi-même. Et j'aimerais que, aussi, le regard des autres puisse changer. Moi, l'objet de mon livre, c'est de montrer que, oui, il a commis des actes monstrueux, mais ce n'est pas un monstre. On ne peut pas le réduire à cela. Et la personne qui arrive à faire le chemin extrêmement difficile, moi-même, je dois faire ce chemin. Quand je passe des heures et des heures en face de ce garçon et que je me rappelle qu'il a tué de façon dramatique, il faut que j'arrive aussi à avoir ce chemin de foi pour le voir comme Dieu le voit, et non pas comme notre société le voit, ou comme moi-même, avec mes réflexes un peu primo-primaires, le catalogue, ouais, c'est un sale meurtrier. Eh bien non, c'est pas un sale meurtrier. C'est d'abord un homme qui a commis un crime. Voilà. C'est ça déjà, entrer dans le paradis.
Y aura-t-il un paradis pour moi? C'est la question ce soir, et vous pouvez donc nous rejoindre en appelant tout simplement au 01 56 56 44 00. C'est Michel Polnareff qui répond. On ira tous au paradis, on l'écoute. On ira tous au paradis. Et on remonte en 1972 avec cette chanson de Michel Polnareff pour nous accompagner ce soir autour de cette question. Y aura-t-il un paradis pour moi? Irons-nous tous au paradis? Nous avons le frère Benoît Dubigeon pour nous guider, nous éclairer sur autour de cette grande question. Père Benoît, vous qui publiez donc Y aura-t-il un paradis pour moi, même en prison, l'espérance est possible, c'est paru aux éditions Arthège, et vous étiez donc en train de nous parler de votre rencontre, de vos rencontres qui ont jalonné votre parcours en tant qu'aumônier, qui vous ont façonné. Et puis, donc, nous allons accueillir notre premier auditeur ce soir. Ce soir, c'est Bernard qui nous appelle de Marseille. Bonsoir, Bernard.
Bonsoir. Je vous écoute.
Bonsoir, Bernard.
Alors.
Bonsoir, monsieur. Oui.
Votre question ce soir, Bernard.
Alors, ma question que je me pose depuis des années, pourquoi Dieu a-t-il créer le monde avec en quelque sorte en provoquant l'homme pour faire le péché ou de ne pas faire le péché.
Là, vous posez une question tout à fait pertinente et forte et que toutes les générations d'hommes et de femmes croyants ou chercheurs de Dieu se sont posées. Pourquoi le mal, au fond, hein? Pourquoi le mal?
Oui. Parce que donc je pense que il y a certains êtres humains qui sont formidables, et puis il y a beaucoup de pourriture qui se plaisent à faire le mal et à détruire les êtres humains qui sont formidables.
Alors, d'abord, quand on lit le livre premier de la Genèse, on voit que Dieu a créé le ciel, la terre, les végétaux, les animaux, les êtres humains, et il vit que cela était bon. Donc Dieu nous a créés avec cette ressemblance, cette image de Dieu inscrite en nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Et donc nous portons en nous, le meilleur que nous portons, c'est cette image de Dieu. Alors, Dieu n'a pas créé le mal, Dieu n'a pas créé la souffrance.
Tout à fait, mais pourquoi un homme qui s'appelait Adam a péché parce que Ève lui a dit « mange le fruit défendu » et que depuis des siècles, le mal a été conçu sur la planète.
Alors, Dieu, je me répète, Dieu n'a pas créé le mal. Il a créé l'homme libre. Libre.
Tout à fait. Il a créé libre.
D'être aimé. D'être aimé et du coup d'aimer. Ce que je disais sur Théo, qui ne sait pas... qui n'a jamais été aimé dans son enfance, il n'a pas su aimer, parce qu'à son tour, il n'a pas pu donner ce qu'il n'avait pas reçu, c'est-à-dire de l'amour. Les hommes et les femmes normalement constitués ont été aimés par des parents, des grands-parents, par une famille, mais nous savons bien aussi que dans toutes nos familles, et j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de famille sans difficulté, même dans nos histoires, nous avons tous une histoire de blessure, vous, moi, il y a même si nous avons eu, moi j'ai eu des parents extraordinaires, et j'ai ma vieille maman qui m'écoute là en ce moment, elle m'a beaucoup aimé et je lui dois beaucoup. Et pourquoi parfois je ne fais pas le bien que je voudrais et que je fais le mal que je ne voudrais pas? C'est saint Paul qui nous dit ça. Pourquoi? On est devant la question du mal et je n'ai pas de réponse à cela. Je n'ai pas de réponse théorique à ce que vous dites. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a créé libre. Il m'a créé à son image pour que je lui ressemble.
Mais
allez-y.
Pourquoi il y a des êtres humains qui sont nés pour faire le mal?
Alors, c'est ce que j'essaye d'aborder dans mon livre. Cette question, je l'aborde sous forme d'un récit. Donc, ce n'est pas un livre théorique sur le mal, sur la question du mal. Pourquoi Théo a commis ce crime et va-t-il aller au paradis? C'est pas un livre théorique, c'est un chemin. C'est un chemin que Théo fait pour découvrir que il n'a pas été aimé. Donc, il ne s'est pas trouvé aimable, il a fait le mal, et pourtant, malgré tout, il est capable de se relever, d'accueillir un chemin de rédemption. Lui qui n'a pas été aimé, il est entré pour la première fois dans sa vie à l'âge de 29 ans, dans un chemin où il se découvre aimable parce que aimé par quelqu'un. Moi, peut-être le premier, je crois pouvoir le dire avec toute humilité, il s'est découvert quelqu'un d'aimable et capable de faire du bien. Il fait du bien à ses codétenus, et je peux vous l'assurer.
Oui, mais par contre, à l'origine, pourquoi le cerveau de cette personne a-t-il fait le mal alors qu'il aurait pu naître pour avoir un cerveau pour faire le bien?
Ah, c'est très important ce que vous dites. Très, très important. Parce que, est-ce que c'est le cerveau qui lui a fait faire ce qu'il a commis? Vous voyez? Moi, je développe dans ce livre 6 mouvements vers le pardon. D'abord, la sortie du déni. Moi, j'ai rencontré en prison un certain nombre de personnes qui n'ont pas reconnu le mal qu'ils ont fait. Non, non, c'est pas moi qui ai tué les enfants de ma compagne, parce que j'ai été jaloux d'elle, parce qu'elle a eu un amant. C'est pas moi qui ai tué, c'est pas possible. Pendant 6 mois, il m'a dit ça. Et au bout de 6 mois, elle a fini par... Et je lui disais, non, je vais l'appeler Nicolas, c'est pas son vrai nom. Non, Nicolas, c'est pas le vrai Nicolas qui a tué, mais c'est quand même Nicolas, c'est quand même vous qui avez tué. Donc, sortir du déni, c'est déjà très important dans le chemin de rédemption. Et ensuite, essayer de comprendre pourquoi il a commis ce crime, pourquoi Théo a commis ce crime. Et là, on fait l'expérience, comme aumônier de prison, que ce n'est pas seulement l'intelligence qui commande, voyez. Prenez quelqu'un, Bernard, prenez quelqu'un qui est extrêmement jaloux. Il va tuer par jalousie. Est-ce que c'est la tête qui commande? Eh bien, je peux vous dire que non. C'est les pulsions de violence, de jalousie. Vous savez, la jalousie, ce n'est pas un vilain défaut. Ça nous amène à faire un crime, la jalousie.
Ce que je comprends, c'est que l'être humain, il est né à la fois pour faire le bien et pour faire le mal. Pourquoi y a-t-il dans un cerveau les deux possibilités de que la personne s'oriente dans un sens ou dans l'autre? Pourquoi le cerveau, Dieu n'a-t-il pas créé que le bien et pas le mal?
Dieu n'a créé que le bien. Dieu n'est que bien et il ne nous fait que du bien.
Pourquoi un cerveau, tout d'un coup, fait le mal? C'est donc qu'il a la possibilité de faire le mal.
Ce n'est pas forcément le cerveau. Si vous m'avez bien entendu, je dis le cerveau peut y contribuer. C'est ce que font... Moi, pour moi, ça reste un mystère et j'aborde ça dans mon livre, justement. C'est la question des personnes psychopathes qui font... avec toute leur intelligence, leur pleine conscience, qui font un travail de destruction et qui vont tuer, c'est les serial killers, on voit ça au cinéma.
Oui, mais pourquoi ces gens-là sont-ils nés anormaux alors qu'ils auraient pu naître normal et vivre des vies agréables et justement ne pas commettre des crimes?
Je n'ai pas la réponse à votre question. Je suis un chercheur comme vous. C'est une question très difficile, mais ce que je sais... Et j'essaye de le dire aussi dans mon livre, c'est que même si ces gens font le mal, est-ce qu'ils ont une totale liberté à accomplir ce mal, une totale conscience de ce qu'ils font? Pour moi, je pense qu'il n'existe pas un seul être humain capable d'agir en faisant le mal absolu comme le diable l'a fait. Il n'y a que le diable, le diviseur, qui est capable en pleine conscience de... commettre le mal absolu.
Merci beaucoup Bernard, merci de nous avoir appelés et d'avoir participé à notre émission. Irons-nous tous au paradis? C'est la grande question ce soir que nous nous posons. Et vous êtes nombreux à nous appeler, à réagir également sur le live de la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Jean-Michel, Patricia, Jean-Paul, Geneviève et Raphaël qui nous ont rejoints. Jean-Michel qui nous dit que il croit que beaucoup de gens iront au paradis avec pour la plupart un séjour au purgatoire, point d'interrogation. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Moi aussi je veux bien aller au paradis en passant par le purgatoire, nous dit Jean-Paul. Et puis voilà, n'hésitez pas donc à réagir si vous nous écoutez, si vous avez envie de poser des questions. Oh, frère Benoît, vous êtes tous les bienvenus. Nous accueillons à présent Pascal qui nous appelle depuis l'île d'Adam. Bonsoir,
Bonsoir
Pascal.
Marie-Lala Coussa,
Bonsoir
bonsoir
Pascal.
Père Benoît.
Oui.
Alors moi, je suis un handicapé.
Oui.
On dit une personne en situation de handicap, ça passe mieux. Je ne sais pas pourquoi. Alors moi, je sais que moi, j'irai au paradis, mais je pense que tout le monde ira, comme la chanson de Michel Polnareff.
Ben,
Parce
je le crois
que,
fondamentalement aussi, oui, mais allez-y, je
oui.
vous écoute.
Et voilà. Et sinon, ben moi, je suis pressé d'y aller parce que je souffre beaucoup maintenant. J'ai presque la soixantaine et je souffre beaucoup. Je suis pressé d'aller au paradis. Alors, c'est pour ça, j'ai pas peur de la mort
D'accord.
et je m'ennuie sur cette terre. J'ai fait le tour.
D'accord.
Y en a qui ont fait le tour, mais c'est pas bien. Faut essayer d'avoir des objectifs, mais j'arrive pas à les concrétiser. Donc, j'espère m'en sortir. C'est peut-être une mauvaise passe. Je verrai bien.
Oui.
Mais là, je suis. Alors, le bien, le mal, moi, je m'en fiche parce que c'est la dualité qui a toujours existé. Les Chinois appellent ça le yin, le yang.
Oui.
Alors, ça a toujours existé. Mais c'est pas normal que au 21e siècle, il y ait encore du mal. Parce que moi, je suis un rêveur et je pensais que, bon, ça s'arrange un petit peu, mais c'est pas encore ça.
Oui. Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a du mieux, il y a du mieux. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, il faut se dire que dans le monde, il y a du mieux.
Ah, c'est beau ça, c'est une parole
Oui.
d'espérance là que vous nous dites là. Merci. Enfin,
Ah
je parle
oui.
beaucoup de l'espérance à la fin du
Oui.
livre pour dire oui, il est possible d'espérer même quand
Quelles
on
que
a
soient nos
touché le fond, quelle
situations.
que soit notre
Oui.
situation. C'est beau votre témoignage là. Oui,
Oui,
oui.
il faut se dire, il y a du mieux. Et puis après, bon, bah, si je dois aller au paradis, je pense que j'irai quand même. Parce que c'est comme dit Michel Polnareff. Bon, bah, oui, mais c'est un peu vrai, hein. Tout le monde ira, je pense que tout le monde ira, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire des bêtises. Il
Eh
faut
oui.
faire attention.
Oui,
Oui,
tout à fait.
voilà, il faut faire attention. Mais c'est vrai, il y a toujours la dualité dans les cerveaux, dans les machins, des trucs. Alors les handicapés, ils sont pas tous d'équerre, hein, ils sont pas tous parfaits. Alors c'est pas évident pour eux. Et il y en a, ils ont rien fait du tout, ils sont très handicapés. Alors c'est pas juste, il y a de l'injustice, mais il faut faire au mieux, faut croire au divin,
Pascal,
aux
voilà. Je vous propose
divinités.
de rester avec nous. On va accueillir Daniel qui est parisien et pour qui lui, il ne pense pas qu'on ira tous au paradis. Bonsoir, Daniel. Vous êtes avec nous?
Je ne veux pas désespérer parce que foi, espérance et charité, c'est trois vertus théologales. Et l'espérance, je disais qu'on n'ira pas tous au paradis parce que le Seigneur est bon, un peu difficile avec nous, un peu. Il est le tout autre. Il est tout ce que le monde n'est pas. Et tout ce qui est différent du monde, tout ce que nous aimons, il est tout ce que nous aimons, tout ce qui est, comme dit Mère Teresa, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Tout ce qui est bon, qui est agréable, qui est gentil, qui est différent d'abrutes furieuses qui tapent sur les autres. Voilà ce qu'il faut dire. Mais bon, voilà, j'avais contacté Radio Notre-Dame en passant vers les 144 000, mais ce sont des saints, parce qu'ils vivent avec Dieu. Alors on ne peut pas atteindre ce niveau-là. D'un coup de doigt, je ne peux pas te demander à Dieu est-ce que je vais avoir la foi. On ne peut pas avoir la foi. On peut évoluer progressivement dans un état psychique proche de Dieu, mais ça prend du temps. Ça prend des confessions, des tas de trucs. pour aller à la messe, pour écouter
Alors
à
pour
Dieu. Moi,
ceux,
je suis
en
parti.
fait, c'est de dire que ceux qui n'ont pas la foi n'iront pas au paradis, il n'y a pas de paradis pour eux.
Ah, ah, sûrement
Frère
pas.
Benoît.
Ah non, 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 ça, je peux pas cautionner une telle chose.
Non.
Le
Il y a
paradis.
le lac de feu et de soufre.
Il y a des.
Le lac de feu et de soufre dans la Bible, ça existe? Eh bien, mais oui, eh bien, non, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui seront détruits, puis dans la deuxième mort, et la première mort et la deuxième mort.
Oui.
Deuxième mort, c'est la mort de l'âme.
Oui, c'est la
Alors, la
séparation avec
question
Dieu, oui.
est là. Et oui, c'est grave. La question est extrêmement grave. Et Dieu, tout autre, il ne nous juge pas. Non. C'est comme David, c'était un frêle berger. Et qui a une astuce fantastique pour détruire le Goliath, le géant. Mais bon, le géant était très très fort, lui était très très faible. Et voilà, ce qui plaît à Dieu, c'est ce que nous ne soupçonnons pas. Moi, je vais au Lectio Divina à Saint-Ambroise,
Oui.
et j'étudie la Bible avec beaucoup de, selon Saint-Ignace de Loyola, avec beaucoup de mal et de recherche et j'ai plusieurs bibles, j'ai plein de bouquins et bon c'est pas simple. Alors est-ce qu'on va aller comme ça au paradis? Moi j'y crois pas, mais je veux pas désespérer les gens parce qu'il
On
y
ne
a le purgatoire.
désespère pas. Merci beaucoup, Daniel, pour votre appel. Et votre participation ce soir, voilà, c'est une grande question et donc on est ravis de pouvoir vous entendre. Merci à vous également, Pascal.
Merci.
Est-ce que je peux dire un mot sur
Oui, bien sûr.
Pascal? J'ai
Oui.
envie de vous dire ceci. D'abord, je suis rempli de compassion hein, pour votre handicap, votre souffrance, votre ennui sur cette terre. Et vous savez, moi, j'ai aussi pas mal souffert ces dernières années. Et j'ai été aidé par une parole de quelqu'un qui n'est pas croyant, pour le moins, c'est Jean-Paul Sartre, vous voyez? On ne peut pas
Ah
dire
oui.
qu'il est spécialement croyant, hein? Il était plutôt fait
Oui.
partie des agnostiques, mais c'est beau quelqu'un qui est agnostique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un chercheur de Dieu. Donc tous les chercheurs, chercheurs de sens, s'ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent au moins son sens. Il a dit ceci, une phrase qui m'a profondément marqué, vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez subi, mais vous êtes responsable de ce que vous faites
Voilà.
avec ce que la vie a fait de vous. Alors,
Ah oui.
vous voyez, votre handicap, il est une lourde charge. Et encore une fois, j'ai beaucoup de compassion. Mais vous pouvez faire de cet handicap un lieu de fécondité pour vous-même et aussi pour les autres.
Oui,
Par exemple,
oui.
aimer avec cet handicap, vous savez, c'est une nouvelle extraordinaire parce que les handicaps, il y a ceux qui sont visibles, il y a aussi tous ceux qui ne sont pas visibles. Et que les gens portent dans le silence de leur vie, de leur cœur. Et quand ils voient une personne avec un handicap visible qui arrive à continuer d'aimer, de croire en
Oui,
la vie, eh bien, ils sont une bonne nouvelle pour eux. Et donc,
ils
j'allais
sont
dire,
contents.
vous avez certainement une mission à faire. Et vous savez,
Comme les
tout est
saints,
possible.
les martyrs, tout
Tout est
ça.
possible du point de vue de Dieu. Et je réponds en même temps à Daniel, là, qui vient de s'exprimer. C'est vrai que dans nos vies, on est confronté à des choses absolument impossibles. On n'y croit pas. Par exemple, comment croire que ce Théo dont je parle dans le livre, il sera pardonné? Ou comment croire que les
Ah
victimes, comment croire, attendez, je finis, comment croire que les victimes vont pouvoir lui pardonner? C'est strictement, rigoureusement impossible. Mais si c'est impossible du point de vue de l'homme, pourquoi ça ne serait pas possible du point de vue de Dieu? Parce que c'est lui qui va le faire. Regardez même Jésus sur la croix. Il souffre la torture. Il souffre de l'abandon de ses plus proches amis. Il souffre la déréliction la plus totale. Et pour lui, comment c'est possible de pardonner totalement s'il est vrai homme? Et il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'en remet à plus grand que lui. Le pardon qui va jusque-là va vers la totalité du pardon.
Y aura-t-il un paradis pour moi? On en parle avec vous. Merci Daniel, merci Pascal pour vos appels. On se retrouve juste après un concerto pour violon en D mineur. C'est le mouvement 3. Jean Sibelius, Allegro ma non tanto. C'était le troisième mouvement de ce concerto pour violon en D mineur de Jean Sibelius, ce compositeur finlandais. C'est votre proposition musicale ce soir, frère Benoît.
Ben oui, je l'ai redécouvert ce concerto. D'abord, j'ai fait du violon dans mon jeune temps.
Ah oui.
Et je l'ai écouté, j'allais dire presque en boucle cet été. Là, j'étais au Mont d'Or pour faire de la montagne et puis rendre service à la paroisse. Et tout en finalisant ce livre, je l'ai beaucoup écouté. Et puis je me dis, ce violon, il arrive à sortir du magma. Il y a une espérance, ce violon qui est dans le magma de cette vie quand même si difficile, avec le problème du mal, le problème des handicaps, le problème des souffrances, de la solitude, de tous les drames qu'on peut côtoyer. Il arrive quand même à frayer son chemin pour, avoir le dernier mot, quoi. Le dernier mot, surtout dans les aigus. Hein, c'est extraordinaire, cette musique. Mes mots sont faibles pour dire ce que je ressens. Mais merci de l'avoir diffusé.
Merci à vous. Même en prison, l'espérance est possible. C'est cette espérance dont vous parlez dans votre livre. Y aura-t-il un paradis pour moi ? Et cette grande question qui nous touche tous et qui vous concerne, vous aussi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, 01 56 56 44 00. Tout de suite, nous accueillons Françoise. Bonsoir, Françoise.
Bonsoir. Bonsoir.
Oui. Bonsoir, Françoise.
Alors, bonsoir. Donc, oui. Alors, moi, je voulais dire que j'ai une amie de confession musulmane, une ancienne voisine, et elle m'a dit une fois, sais-tu te convertir à l'islam, tu es sûr d'aller directement au paradis. Mmh. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que j'irai au paradis, enfin, je sais pas trop si le paradis, si l'enfer et le purgatoire existent vraiment, parce que j'ai beaucoup de doutes, mais je lui ai dit, je lui ai posé la question, je lui ai demandé, je dis, vous, dans l'islam, vous pardonnez? Alors elle m'a dit, c'est Dieu qui pardonne. Oui, mais le plus important, Dieu pardonne, d'accord, c'est très bien, mais le plus important, c'est pas que Dieu nous pardonne, parce qu'on peut toujours recommencer, c'est le principe de la confession, hein. Mais le plus important, c'est de nous, de pardonner aux autres, et ça, c'est extrêmement difficile, c'est presque impossible.
Oui, tout à fait. Le pardon, vous voyez, suppose de sortir du déni, je l'ai dit tout à l'heure, ça suppose essayer de comprendre pourquoi on a subi ce qu'on a subi, ou pourquoi on a fait ce qu'on a fait, puis avoir cette humilité de savoir qu'on ne pourra pas tout comprendre, on n'a pas la maîtrise de tout. On ne peut pas avoir la maîtrise de son histoire, de l'histoire de l'autre avec qui on s'est fâché, avec qui on a commis peut-être l'irréparable. Et puis après, vous le dites très justement, Françoise, c'est essayer de se pardonner un peu à soi-même. C'est mission impossible. C'est vraiment mission impossible de se pardonner à soi-même. Parce que quand on a fait du mal, on entre dans le schéma de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on prend sur soi le mal que l'on a commis et on le retourne sur soi-même. Parce que on sait très bien que si on le retourne vers d'autres, on va commettre encore des actes plus terribles que cela. Donc se pardonner à soi-même, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et vous avez raison de dire « Dieu seul pardonne ». D'ailleurs, Jésus lui-même, dans l'Évangile, le dit, le pardon, ça, c'est Dieu qui pardonne. Il dit même, c'est pas moi, Jésus, qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne. C'est le ressort de Dieu. Le don, le pardon, c'est le don que je ne peux pas me donner à moi-même, même malgré tout le chemin que j'ai fait précédemment, le don que je ne peux pas me donner à moi-même, j'ouvre mes mains, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma vie, et je le demande à Dieu. Tout est possible, même ce pardon impossible pour moi, parce que c'est lui qui va le faire. C'est lui, Dieu, qui va le faire. Et c'est pas moi. Moi, j'aurais fait mon bout de chemin, tout ce que j'aurais pu, et c'est lui qui va le faire. Ah, c'est cette confiance radicale en Dieu qui pardonne, qui me fait le don que je ne peux pas me donner à moi-même. Voyez. Et c'est pour ça que il n'y a pas besoin d'être mis sur les autels des saints de l'Église pour pouvoir aller au paradis. Être un saint, c'est pas être un homme parfait qui n'a commis aucune faute majeure. Être saint, c'est être ami du Christ. Vous voyez, il n'y a pas de saint sans passé, a dit le pape François, et il n'y a pas de pécheur sans avenir. Il n'y a pas de saint sans passé. Donc les saints ont tous commis le péché, plus ou moins grave, et tous les pécheurs sont ouverts au pardon de Dieu. C'est ça la sainteté, c'est de se laisser ouvrir à la sainteté que Dieu va nous donner, pas que nous allons nous donner nous-mêmes, parce que nous pardonner nous-mêmes, c'est mission impossible. Mais si je m'ouvre au pardon que Dieu me donne, eh bien je deviens saint. Mmh. Et quand je célèbre des obsèques, tous les jeudis matin, je célèbre des obsèques, je dis à l'assemblée, je m'adresse aux défunts en disant, vous êtes devenu un saint puisque vous êtes maintenant dans le face-à-face avec Dieu. Vous voyez Dieu tel qu'il est et vous vous laissez regarder tel que vous êtes en vérité. Alors aidez-nous, nous qui sommes encore sur cette terre, à marcher sur le chemin de la sainteté, qui n'est pas d'être parfait. D'ailleurs, le Christ le dit. Soyez parfait comme moi je suis, comme Dieu lui-même est parfait. Être parfait, c'est faire du bien au bon, comme pour les méchants. Mmh. C'est pas avoir toutes les qualités, être parfait. C'est faire du bien à tout le monde. Prier pour ceux qui nous persécutent. Ne pas leur vouloir du mal, mais si possible, leur faire du bien. C'est ça, être saint. Et chacun fait sa petite part. Certains font des grandes parts. Si vous faites votre petite part à vous, eh bien, vous marchez sur le chemin de la sainteté.
Merci beaucoup, Françoise, pour votre appel. Merci à vous tous, car vous êtes nombreux à réagir ce soir. Il y a Jean-Paul qui nous dit sur le chat de la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Moi, je me dis que des fois, s'il y a des malheurs qui nous arrivent sur cette terre, c'est pour payer nos erreurs, le mal que l'on a fait à Dieu. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre à Jean-Paul ?
D'abord, Dieu ne se vengera jamais du mal que l'on a fait. Dieu restera fidèle à sa parole. Si nous faisons du mal à Dieu, Dieu ne nous fera pas du mal. Il n'est pas un Dieu vengeur. Voilà. Le mal que l'on fait, on sait très bien qu'il a des effets boomerang. C'est-à-dire que si je fais du mal à quelqu'un, ça va fabriquer aussi des réactions, actions, réactions. Ça va fabriquer des réactions négatives. Et le mal peut s'amplifier comme une réaction nucléaire, voilà, de façon exponentielle. Mais c'est pareil pour le bien. Le bien que je fais à quelqu'un ou le bien que quelqu'un me fait est aussi capable de générer des réactions en chaîne positives. Donc si je fais le mal, il ne faut pas s'étonner que le mal soit redupliqué. Il y a des copier-coller sans arrêt dans nos vies. Mais ce n'est pas Dieu qui va se venger du mal que l'on a fait. C'est l'homme qui est responsable à cause de la liberté que Dieu lui a offerte. C'est d'ailleurs le plus grand don que Dieu nous fait, notre liberté. À cause de cette liberté, quel usage je fais de ma liberté? Je peux la retourner contre moi, contre les autres, et à ce moment-là, je vais voir les conséquences. Quand Adam et Ève ont commis le péché lié à leur origine, ils se sont trouvés exclus du paradis, ils se sont trouvés nus, mais ils étaient avant nus. Ils étaient avant, mais ils ont découvert cette culpabilité de se trouver nus, alors qu'avant, ils ne se sentaient pas coupables d'être nus qu'ils étaient. Donc, vous voyez, c'est le mal qui engendre le système de la culpabilité dont il faut pouvoir sortir. Et c'est très, très difficile de sortir de la culpabilité. Il n'y a qu'une seule manière de sortir de cette culpabilité, j'essaye de le décrire dans ce récit avec Théo, c'est de justement de se laisser regarder par le Christ, car il nous aime. Et quand on se laisse regarder par quelqu'un qui vous aime, on ne regarde plus le mal se retournant sur nous-mêmes, comme le serpent qui s'enroule autour de lui-même, mais on ouvre les bras avec des mains vides, comme un pauvre qui est capable d'accueillir le cœur de Dieu, sa miséricorde, un cœur qui vient recouvrir ma misère. Et c'est d'ailleurs ce que fait Dieu sur Adam et Ève. Son premier geste, après la parole qu'il donne, c'est de recouvrir Adam et Ève d'un vêtement, le vêtement de sa miséricorde, son cœur qu'il remet sur Adam et Ève. Aujourd'hui, le 16 octobre, fêtons Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui a beaucoup médité sur le cœur de Jésus, cette miséricorde, ce cœur dans nos misères, sur nos misères, qui vient recouvrir pour nous délivrer de cette culpabilité et nous restaurer dans notre dignité d'enfant de Dieu.
Nous sommes avec le frère Benoît Dubigeon qui publie « Y aura-t-il un paradis pour moi ?» aux éditions Arthège. Même en prison, l'espérance est possible. On en parle avec vous ce soir, 01 56 56 44 00. Irons-nous tous au paradis? Soyez les bienvenus. Vous pouvez donc nous rejoindre pour témoigner en direct à l'antenne. Merci à vous tous déjà pour vos nombreuses participations. Il est bientôt 22h. On se retrouve juste après une courte pause. Jean-Claude, on se retrouve juste après 22h. Merci pour votre patience. À tout de suite. Thank you.
dans la nuit. Marie-Léla Coussa.
Il est 22h, soyez les bienvenus en ce jeudi soir. Nous avons le frère Benoît avec nous autour de cette question. Y aura-t-il un paradis pour moi? Vous pouvez nous rejoindre donc en appelant tout simplement le 01 56 56 44 00. On écoute tout de suite On Earth As It Is In Heaven. C'est la bande originale du film Mission et c'est du grand compositeur italien Ennio Morricone. On earth as it is in heaven, sur terre comme au paradis, Ennio Morricone ce soir. Y a-t-il un paradis pour moi? Irons-nous tous au paradis? Grande question ce soir et c'est le frère Benoît Dubigeon qui est là pour nous accompagner ce soir. Oui, frère.
Cette musique de Mission,
oui.
Si je l'ai choisie, c'est aussi parce qu'elle montre ce jésuite. Il n'est pas jésuite à l'époque, qui a commis un meurtre terrible puisqu'il a tué son frère par jalousie et qui va essayer d'expier son péché en portant de lourdes charges, en montant une falaise. Voilà. Et il va croire qu'il va pouvoir se sauver lui-même de ce qu'il a commis. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il finit à la force de la volonté par arriver en haut avec son fardeau, ses casseroles immenses. Et qui va le délivrer? Ce n'est pas lui qui va se laisser délivrer lui-même. Ce sont ceux qui l'ont torturé, les populations incas, qui l'emmenaient en esclavage. Ce sont eux qui vont le délier du joug qu'il portait de sa culpabilité. Autrement dit, le pardon. Oui, je peux chercher à comprendre ce que j'ai fait ou ce qu'on m'a fait. Oui, je peux chercher à me pardonner, mais il faut que je puisse ouvrir les mains, les bras, mon cœur, pour me laisser pardonner par quelqu'un d'autre qui me dit « Je te pardonne, je te fais le don que tu ne peux pas te donner toi-même, le pardon. » Et Théo, dans mon livre, quand je lui dis « Mais il y a 5 mouvements vers le pardon, à concomitant, on n'y arrive jamais complètement, il faut faire de tout petits pas, il faut rester modeste, même si je ne fais qu'un pas, alors que j'en ai 10 000 à faire, c'est pas grave, l'important c'est d'avoir fait ce petit pas-là. » Il me dit, frère Benoît, mais il y a un 6e mouvement. Si j'accepte de me laisser pardonner le crime horrible que j'ai commis, si je l'accepte vraiment, en sortant de la culpabilisation, mais je suis responsable de ce don, qu'est-ce que je vais en faire de ce don? Ah, je dis oui. Mais comment vous répondez à la question, Théo? Il me dit, en faisant du bien, en faisant du bien, j'ai fait du mal, j'ai fait un mal horrible, et je m'en veux, toute ma vie je m'en voudrais. Je pleure sur ma victime et je pleure sur sa famille, mais j'ai décidé en prison, pour la première fois, d'aimer gratuitement, alors qu'avant j'essayais d'aimer les autres pour être aimé, puisque j'ai passé ma vie à me haïr, j'ai décidé d'être responsable de ce don en aimant les autres gratuitement. Et j'ai déjà commencé. Mmh. Il a tout compris. C'est pour ça qu'il est sauvé déjà. Maintenant, il est sauvé, tout lui est donné, tout lui donner à faire. Mmh. C'est ça d'ailleurs un sacrement. Tout est donné, mais ça nous est donné à faire parce que Dieu respecte notre liberté.
Alors, beaucoup de questions ce soir. On va à présent accueillir Jean-Claude. Jean-Claude, bonsoir.
Oui, bonsoir Marie-Leïla.
Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir également, je crois que c'est le frère Benoît.
Oui, tout à fait.
Oui, merci frère Benoît d'avoir choisi déjà ce formidable thème sur la prévie, et aussi d'avoir choisi cette musique d'Ennio Morricone.
Mm-hmm.
Que quand on entend les chants religieux au début, on est déjà comme au paradis. C'est presque un avant-goût de paradis. Hein.
Mm-hmm.
Alors moi... Justement, sur le thème de ce soir, qui est vraiment un formidable thème, et merci encore d'avoir choisi ce thème, Marie-Leïla. Moi, sur le thème de la... Est-ce qu'on ira tous au paradis? Oui, moi, j'y crois profondément.
Mm-hmm.
Parce que j'ai lu des ouvrages, je me suis beaucoup documenté, justement, sur les NDE. Alors, ce sont des gens qui, dans des circonstances bien particulières, c'est-à-dire soit par des très graves accidents, soit par des très graves opérations, se sont trouvés...
NDE, vous pouvez préciser, Jean-Claude, pardon, hein, mais pour ceux qui ne savent pas,
alors,
les expériences de mort imminente, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont trouvés pratiquement aux frontières de la mort.
Mmh.
Et tous ces gens... ont rapporté des témoignages bouleversants et qui coïncident tous. Tous expliquent qu'ils se sont retrouvés comme dans une sorte de tunnel. Et qu'à l'extrémité de ce tunnel, il y avait une lumière douce qui les a envahis, une lumière éblouissante, mais ils ont reconnu comme un être de lumière. Et cet être de lumière, pour eux tous, disent que c'était le Christ.
Mmh.
Et ils se sont sentis plongés, comme certains disent, comme s'ils étaient comme dans un océan de béatitude infinie. Ils ont ressenti un calme, une sérénité, une paix qu'ils n'ont jamais connue sur la terre.
Mmh.
Certains racontent qu'ils ont justement retrouvé leur défunt.
Mmh.
Ils expliquent qu'ils ont vu des paysages, des fleurs d'une beauté inouïe qui n'existe pas sur la terre.
Mmh.
Ils ont vu des lacs d'un bleu irréel. Ils ont vu des prés avec des herbes blondes et hautes. Ils ont perçu des champs merveilleux d'oiseaux.
Mais c'est surtout
et
de sans, se dire
que ces gens-là, quand ils sont revenus, justement, qu'ils se sont réveillés sur une table d'opération et qu'ils ont retrouvé par la suite une vie normale, eh bien, ils se sont lancés à corps perdu, soit certains dans des associations. Parce que c'est arrivé aussi bien à des gens qui étaient agnostiques, que des gens qui étaient athées. Eh bien, eux, ils priaient, ils aidaient leurs voisins tant qu'ils le pouvaient. Et les gens leur disaient, mais comment se fait-il que vous soyez métamorphosés ? Et alors ils expliquaient qu'ils savaient qu'il y avait une après-vie. Et ils ont fait des témoignages bouleversants et beaux, beaux à en pleurer. Et les scientifiques, en particulier américains, les chercheurs américains, ont étudié justement ce phénomène des NDE. Parce qu'ils ont fait même...
Alors ça mériterait même une autre émission en fait, oui. sur toutes ces expériences. Jean-Claude, merci beaucoup. Je suis désolée parce qu'on a beaucoup,
oui, on a beaucoup, de questions. Simplement un mot, je voudrais dire.
Oui, bien sûr.
D'abord, ces personnes... Tant mieux si elles vivent ce type d'expériences qui sont des signes de ce vers quoi nous allons. En même temps, elles sont revenues. Et la plupart de celles qui ont vécu cette expérience disent qu'elles sont revenues parce qu'elles avaient encore quelque chose à faire. Ce qui corrobore ce que je venais de dire à l'instant, c'est que voilà, si je me sens pardonné, c'est parce que du coup, j'ai quelque chose à faire de ce don que j'ai reçu. Et en même temps, voilà, le passage par la mort, notre sœur la mort corporelle, c'est l'occasion de dire... Ben, aime ne rien saisir de l'avenir pour saisir l'occasion de t'abandonner, ce qui est le grand passage par la mort, vers la vie éternelle.
Nous avons une question de Marie-Claire qui demande si la personne qui a demandé le sacrement des malades avant de mourir va-t-elle directement au paradis, frère Benoît.
Oui, et même celles qui n'ont pas reçu le sacrement des malades. Le sacrement des malades, c'est le signe que le Christ donne à une personne au nom de l'Église qu'elle n'est pas enfermable dans la maladie, qu'elle est plus grande que sa maladie. Même si la maladie la défigure ou l'emprisonne dans un corps réduit à un corps de souffrance, elle est plus grande que sa maladie. Elle est toujours vers l'éternel de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai essayé de dire au cours de cette émission que le paradis, c'est déjà sur cette terre que nous avons à le vivre, en faisant du bien, en nous laissant pardonner, en pardonnant aux autres. Et puis aussi, c'est bien sûr le paradis éternel qui nous sera donné au-delà même de notre maîtrise. Voilà, ça sera un don. Est-ce qu'il y a un homme, une femme capable de refuser un tel don? Personnellement, je pense que non. Même celui qui a commis les pires atrocités, parce qu'il n'a pas la pleine conscience de ce qu'est Dieu. Il n'y a que le diable qui a cette conscience-là et qui peut refuser totalement, librement, en vérité, ce don immense qu'est la vie éternelle de Dieu, qui est commencé déjà dès cette terre. Et le sacrement des malades est le signe de cet avenir auquel chaque personne est promise.
Merci beaucoup Jean-Claude et Marie-Claire pour vos appels et vos questions. Nous accueillons tout de suite Alexis du côté de Nancy. Alexis, bonsoir.
Bonsoir Marie-Leïda, bonsoir frère Benoît.
Bonsoir
merci.
Alexis.
Merci infiniment pour cette émission. J'avais envie de répondre tout à l'heure à la personne qui était un peu en but avec l'histoire d'Adam et Ève.
Oui.
Et puis, je me suis dit, mais comment parler du paradis? Comment parler de la
C'était
vie?
C'était Bernard, je crois.
Oui. Bernard, oui. Comment parler de la vie, tout simplement? Et moi, j'ai envie de parler de l'esprit d'enfance. Et je rends hommage à Sainte Thérèse de Lisieux qui a pratiqué et qui nous a introduit dans cet esprit d'enfance. Parce que je pense que ce n'est pas pour rien que Jésus, dans l'Évangile, dit que le royaume de Dieu appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Et je crois que dans toutes ces démarches théologiques de recherche de sens, il ne faut pas oublier que Jésus lui-même était un enfant au départ et que c'est ce qui fait la grandeur de sa vie d'ailleurs, c'est qu'il a gardé toute sa vie, je pense, un esprit d'enfance et qu'il est rester intègre dans cet esprit d'enfance. Et c'est ça la clé du paradis pour moi. C'est repenser que quand on arrive sur Terre, on est un tout petit. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire entre le grain de sénevé dont parle Jésus et l'enfance. Parce qu'en fait, si on regarde bien au fond des choses, moi j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie et j'étais très déçu de l'humanité. Et à un moment donné, je cherchais des réponses, je cherchais une clé pour avancer, j'arrivais pas, comme le monsieur aussi qui était touché par la maladie psychique. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de condamnation à vivre. Il n'y a pas de condamnation, puisqu'on, quand on ne nous demande pas notre avis, on arrive, on est ce tout petit grain de moutarde qui va grandir. Et donc, comment faire pour trouver le sens de la vie? Et c'est là que l'esprit d'enfance a été une clé pour moi. Si tu vis dans l'amour, si tu... il n'y a pas de jugement dans l'amour, comme dit Saint Jean. Donc, celui qui aime est né de Dieu.
Oui.
Donc, je crois qu'il y a quelque chose de... Restons simples avec Dieu. Et c'est trop profond, le paradis. C'est un trop grand mystère pour arriver à en faire le tour. Donc, c'est il faut accepter. Et c'est comme un enfant. Je pense que dans l'autre monde, Dieu nous rend à notre âme d'enfant. Voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, Alexis. Je vais vous laisser
réagir. Oui, un grand merci. Si j'accepte de me laisser faire comme un petit enfant, je crois que Dieu fera le reste. Je lui donne de faire tout le reste, même l'impossible. Et en vous écoutant attentivement, Jean-Paul, je pensais à ce premier chapitre de Saint Marc qui a été déterminant dans l'accompagnement que j'ai eu avec Théo, où on voit Jésus qui va au bord du Jourdain, qui est plongé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, dans ce tombeau liquide où on va plonger toutes nos forces de mort, nos forces mortifères qui nous empoisonnent nos existences. Et Jésus ressort, Jésus, Théo, moi, vous, nous ressortons lavés, purifiés, debout, et du ciel, une voix se fait entendre. Théo, Benoît, Jean-Paul, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Et tout de suite après, l'Esprit-Saint le conduit au désert, et là il est soumis aux tentations, mais il arrive à résister aux tentations, puisqu'il est mis dans le texte de saint Marc, des anges le servaient. Il arrive à résister aux tentations parce qu'il a découvert que Dieu mettait en lui tout son amour. Il faut être un enfant pour ça, pour se laisser aimer totalement. Et si j'accepte de me laisser faire comme un enfant, il fera le reste. Il suffit de lui dire, Jésus, je t'aime. Jésus, aime-moi.
Merci. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même dire qu'en cette vie, on est malmené. L'esprit d'enfant est malmené.
Ah ben oui.
Par des tonnes de tentations, des tonnes de débats, de débâcles. Mais je crois que le combat, il se situe dans la volonté de rester un enfant. C'est pas facile, parce que le monde nous dit soit adulte, soit grand, soit fier, soit fort. Mais cette impuissance, finalement, intrinsèque, je crois que c'est une clé. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Oui.
Merci à vous, Alexis. Merci beaucoup pour votre appel. Nous avons Jean-Michel qui nous écrit. Alors apparemment, il n'arrive pas à nous joindre. Il aurait voulu nous parler de la joie parfaite, selon saint François, qui naît de la souffrance offerte. Ça vous parle?
Ça me parle, frère Benoît. Oui, parce que je l'ai étudié dans les livres de saint François, mais je l'ai vécu aussi de façon existentielle. La joie parfaite, c'est pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est merveilleux, la vie, les petits oiseaux, etc. La joie parfaite, c'est, dit François à son petit frère Léon, c'est quand tu as été rejeté par tes propres frères, que t'as subi l'exclusion, le gel, la grêle, d'aller d'un couvent en couvent et là te faire renvoyer, toi qui étais le ministre de tes frères. Là, si tu vis cette épreuve dans la paix de Dieu, là est la joie parfaite. Autrement dit, la joie parfaite, c'est ce qu'a vécu, il n'y a que le Christ qui est capable de vivre cette joie. C'est même au cœur du drame le plus terrible, avoir cette profonde foi que Dieu habite en nous et que c'est lui qui réussira. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu les forces du mal, j'ai vaincu les forces mortifères. N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est le bien qui l'emportera sur le mal. Et le bien qu'est Dieu. C'est pas le bien une catégorie opposée au mal. Le bien qu'est Dieu, c'est lui qui l'emportera, qui aura le dernier mot sur le mal. Et que chaque fois que je ne donne pas prise à ces forces mortifères qui sont, comme vous l'avez dit, Jean-Paul, extrêmement nombreuses et violentes dans le monde, mais chaque fois que je ne donne pas prise, eh bien, je suis avec le Christ victorieux du mal. Je suis victorieux du mal et je peux résister aux tentations. Mmh.
Nous avons Geneviève sur le chat de la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame qui nous dit que le père Maurice Zandel a dit que nous reconnaîtrons même nos voix au paradis, à tous ceux qui ont parlé du regard, et alors il y a aussi la voix.
Mais oui. Il paraît que dans la vie d'une personne, au fur et à mesure qu'elle vieillit, qu'elle prend des rides, des cheveux blancs, la voix et le regard, c'est ce qui ne change pas. C'est-à-dire, c'est ce qui est éternel. Et dans le paradis, sur terre comme au ciel, ce qui fait notre unité, c'est justement notre personne. C'est notre personne tout entière capable de relation avec sa voix, son regard. C'est elle qui demeure éternelle. Cet enfant de Dieu bien-aimé en qui Dieu a mis tout son amour. Et oui, c'est très beau cette phrase de Maurice Zandel.
Merci à vous tous pour vos réactions si nombreuses. Nous allons accueillir maintenant Monique. Monique qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Monique.
Oui, bonsoir. Ben moi, je vous ai appelé que deux fois. Je vais faire court. C'est-à-dire que j'ai cherché Dieu toute ma vie.
Oui.
Et voilà. Et je suis catholique. Et j'ai été chercher Dieu dans beaucoup de religions parce que je faisais de la dépression et à l'époque j'ai 76 ans. Donc je rentrais dans une église, je ressortais aussi seule. Et bon, ça n'existe plus maintenant, mais bon. Bon, voilà. Alors moi, j'ai appris que, d'abord, j'aime beaucoup la Bible, et j'ai appris que, alors c'est pour dire à des gens qui ont peur, que notre péché peut être rouge écarlate, oui. Il peut devenir blanc comme neige. Oui. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis je voulais vous dire que Christ est quand même, tout le monde le sait, Christ est quand même mort pour nos péchés. Si on se repent et qu'on croit, eh ben on va au paradis, non?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous pensez? Je téléphone pas souvent, mais j'écoute, mais j'y crois à ça.
Mais vous avez raison, Monique.
Je crois
Saint François, il dit, à trop regarder son péché, on pêche encore. Et il dit aussi la chose suivante, même notre péché peut être l'occasion de grâce, de la grâce. Et d'ailleurs, Saint Paul, il dit la même chose. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que même quand je fais l'expérience d'être pécheur, c'est-à-dire de me couper de Dieu, de me couper des autres, de me couper de moi-même, je peux, en revenant par ce chemin de rédemption que Théo a demandé dans les 5 premières minutes de ma visite, je peux redécouvrir la véritable identité que j'ai perdue à cause de mon péché. Non, je ne l'ai pas perdue. Elle est simplement cryptée. Vous savez, comme Canal+,
ah bon,
elle est cryptée. Mais il faut que je la redécouvre. Elle est toujours là. Même ce que Théo a commis et dira parable n'a pas détruit son identité d'enfant de Dieu, bien-aimé enfant de Dieu.
Ah.
Il n'a qu'à la laisser retrouver par quelqu'un qui va lui servir de révélateur de cette identité magnifique qu'il a gardée. C'est ça l'expérience magnifique que je fais avec lui et que j'essaye de rendre compte dans ce livre. C'est que ce Théo, il est né en prison. Il
oui.
s'est trouvé pardonné, il s'est trouvé aimé. Et Saint François, il paraphrase le Notre Père, et quand on dit « pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et Saint François d'Assise, il dit « et ce que nous ne pardonnons pas pleinement ». Ben oui, il y a plein de choses dans ma vie que je n'ai pas réussi à pardonner pleinement. « Fais Seigneur que toi tu le pardonnes », c'est Dieu qui pardonne les péchés, « et qu'à personne je ne fasse le mal, je ne rende le mal pour le mal, mais qu'à tous nous tâchions » Nous tâchions, il est modeste, de faire du bien en toi.
Donc on nous fait du mal de pardonner. Qu'est-ce que c'est dur.
Moi, faut prier pour ceux qui nous font du mal.
Je suis maintenant parce que j'aime mon Dieu et je sais qu'il m'aime.
Oui.
Mais encore maintenant, je fais un genre de dépression. Je me sens mais je suis encore très méprisée. Et pourquoi, je ne sais pas. Eh bien, je me dis, j'aime mon Dieu.
Eh bien, voilà. Laissez-vous aimer. Laissez-vous regarder par le Christ, car il vous aime. C'est ça le plus important. C'est le seul plateau de balance de votre vie.
Merci beaucoup, Monique, pour votre appel et vous êtes très, très nombreux ce soir à vouloir réagir et participer. Je salue Patrick, qui est chauffeur routier et qui nous écoute avec beaucoup d'intérêt. Il avait également beaucoup de questions. Catherine de Toulouse, Gérard, qui nous appelle aussi régulièrement, Caroline de Bretagne, Anne de Vendée, Xavier de Quimper et Steven du Gers. Je suis vraiment désolée, mais on ne peut pas tous vous accueillir. En tout cas, on pense bien évidemment à vous tous qui nous écoutez, qui parfois aussi n'osez pas appeler. N'hésitez pas à le faire la prochaine fois. Voilà, pour conclure, frère Benoît, il y avait une prière à la fin, un poème à la fin de votre livre, ou pour conclure, comment est-ce que vous aimeriez conclure cette émission avec toutes ces questions?
Eh ben, je vais donner la parole à Théo,
oui.
dont je parle beaucoup. Je parle beaucoup de moi aussi, mais c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant. C'est ensemble, on a cheminé, on a fait des petits pas, mais des petits pas éternels. Et il m'a écrit cette lettre le 11 juillet dernier, que j'ai reproduit la dernière page du livre, à l'auteur. Quand la brutalité s'acharne et les ténèbres s'abattent, quand le désespoir enlace et la colère désespère, quand seule une lueur subsiste au tréfonds de l'âme, il suffit d'un regard qui ne dévisage pas, mais envisage, d'une parole qui encourage sans jamais brusquer, d'un ton doux et calme, qui sait parler au cœur, même les plus fissurés, d'une audace dans la pensée, d'une sagesse dans le savoir, pour bouleverser et transcender en ouvrant l'humain au divin. Frère Benoît, je vous dis merci, un merci éternel. Vous m'avez fait le cadeau de naître pour la première fois.
Merci beaucoup, frère Benoît Dubigeon. C'est donc le poème de Théo que l'on retrouve à la fin de votre ouvrage. Y aura-t-il un paradis pour moi? Même en prison, l'espérance est possible. Ça vient de paraître aux éditions Arthège. Un grand merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous et merci à tous les auditeurs et auditrices.
Ouais, pour
des questions magnifiques et très vraies.
Merci beaucoup pour vos questions, vos témoignages. Merci à Cathy qui vous a accueilli tout au long de la soirée, Jean-Paul à la réalisation, Denis à la préparation. Restez à notre écoute et puis demain nous parlerons de la mission. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit et merci encore d'avoir été avec nous ce soir.